I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On pourrait commencer ce podcast comme une devinette. Ces 20 dernières années, il a collaboré avec Booba, Kenji Girac, Dadju, SCH, Lacrime, The Neptunes et donc Pharrell Williams, Brodinski. C'est plus d'une quarantaine de disques d'or et de platine. Et ça continue, puisqu'aujourd'hui, ils travaillent avec la major Sony Music Entertainment. Ensemble, ils ont lancé le label AWA, dédié au développement de nouveaux artistes comme Love Resval ou Zola. Mais surtout, c'est un monument de la musique française et du R&B, créateur des compiles à tubes du début des années 2000, R&B Fever. Allez, pour ceux qui cherchent encore, R&B Fever, c'était ça. Des compilations musicales réunissant le gratin du rap et du raï qui ont permis à notre invité de vendre 1,5 million d'albums tout confondu. Dans cet épisode bonus de Business of Music, nous donnons la parole à DJ Core. Il revient sur la genèse de ces compilations qui ont boosté l'industrie au début de ce siècle. Et à l'heure du streaming et des playlists, on lui pose la question, une compilation peut-elle être encore pertinente? DJ Core est en interview dans cet épisode de Business of Music.
Jamel, producteur, qui est Core.
Bonjour DJ Core. Allier hip-hop, raï, funk, R&B, cette idée de R&B Fever, elle vient d'où?
Le R&B, on l'a inventé. C'est parti en fait d'une envie au départ de vouloir montrer, valoriser le côté éclectique en tant que producteur. Et donc de casser les barrières. Ça a toujours été un de mes combats, on va dire. Et le R&B était le projet, en fait, le concept tout trouvé pour expliquer tout ça et pour rassembler les gens, en fait. Et du coup, avant R&B, il y avait à l'époque Taxi 3, qui était un peu un prémisse, était un peu le prémisse de cette philosophie de vouloir, sur un même projet, mélanger les genres. Il y avait... Sur Taxi, à l'époque, tu pouvais te retrouver... Je pouvais autant produire un morceau pour Booba et Nesbill que de faire le morceau de Corneille, et qui était un petit peu aux antipodes, on va dire, de, musicalement. D'un côté, c'était un peu de la pop, et de l'autre côté, c'était du rap. Et le R&B, en fait, c'est parti d'un truc où c'est un mélange, en fait, entre mes origines. Je suis d'origine nord-africaine, et particulièrement algérienne. Et ma culture musicale qui est le rap et la musique urbaine d'une manière générale.
Au final, c'est quoi? C'est une heureuse coïncidence? C'est quoi? C'est un accident?
Non, il y a une volonté réelle, en fait, parce que la musique rap, j'ai grandi avec, au départ. Mais ça restait quand même une niche à l'échelle, je dirais, nationale. R&B, c'était la première fois où tu avais des titres qui pouvaient tourner... sur les grosses radios, tout en gardant l'origine de ce que c'était, en fait. Et du coup, c'était une réelle volonté. Et d'un côté, il y avait le R&B ou le rap, d'une manière générale, et de l'autre côté, le rail. Et moi, je pense que le succès premier, en fait, de ce projet-là vient d'une discussion que j'avais eue à l'époque avec la personne qui avait signé ce projet, qui était Nicolas Nardone. En termes de positionnement, à l'époque, c'était encore du CD, donc c'était savoir dans quel rayon la compile allait être. Et je pense que le premier truc sur lequel moi j'avais insisté, c'était justement de ne pas avoir, que R&B ne soit pas dans le rayon world music, que R&B soit réellement dans le rayon, on va dire, hip-hop, ou pour un besoin d'appartenance, parce que je crois que c'est aussi ça beaucoup le succès de ce projet, pour un besoin d'appartenance et un besoin de fierté aussi. C'était important, je pense, que le public voit ce projet évoluer à côté d'un je sais pas moi, d'un album de rap, d'un album ricain, d'un Jay-Z, de tous ces projets-là pour avoir un besoin de comparaison et se dire ok, on a un truc un peu qui est urbain mais tout en gardant l'origine en fait.
Comment on procède DJ Core pour faire une telle compilation? On va chercher les artistes un à un, on les appelle, est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes? Comment ça se passe?
Ce qui s'est passé en fait sur R&B à l'époque, c'est que bon, moi déjà, c'est un peu là, j'ai gardé ça de cette époque-là, c'est jusqu'à ce jour, si je dois parler deux secondes d'Awa. Moi, d'un côté, j'ai ma casquette de label manager sur Awa et à côté, je fais du son. Et à chaque fois, la manière dont je construis en fait mes projets, c'est avant tout la musique qui parle. C'est la musique qui lead tout, que ce soit les idées en fait de combinaison de featuring qu'il va y avoir, que ce soit du coup les dépenses sur les projets, parce que pour moi, je pars du principe que beaucoup de gens, beaucoup de labels, beaucoup de maisons de disques se sont perdus à penser tout le temps de manière marketing. Et pour moi, le marketing vient après. Du coup, si tu veux, pour moi, c'est vraiment l'artistique qui lead le truc. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on y arrive encore, parce qu'on fait de la musique, en fait, tu vois, on ne vend pas des yaourts. Et je pense que le public le ressent aussi. Et la chance qu'on a eue sur ce projet-là, particulièrement, c'est que ça a pris une très grosse ampleur directe, parce que ces combinaisons-là, en fait, il y avait des artistes, un projet multi-artiste, multi-interprète, donc avec des maisons de disques différentes. Et finalement, la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, quand je faisais ces combinaisons, les artistes respectifs de chaque maison de disques n'avaient pas spécialement de single aussi fort. Et j'ai été dans le choix du partage et dire bon, bah, écoute, si t'as pas un single ou quoi, travaille-le sur ton label, ouais, même si c'est brandé R&B. Et du coup, en radio, on se retrouvait avec 3-4 morceaux de R&B en même temps, mais qui étaient en fait les singles de chacun qui se retrouvaient sur cette compile-là.
R&B Fever, édition spéciale, même pas fatigué. Bienvenue chez Bill Caro Mix, featuring Cynic, Mohamed Alawa.
C'était aussi pas mal la chance, tu vois. Mm. À une plus grosse échelle, ça s'est vu avec David Guetta quand il a fait son album où il y avait un morceau avec Black Eyed Peas, le fameux I Got a Feeling, et ce morceau-là en fait s'est retrouvé sur l'album de Black Eyed Peas aussi, à être bossé de ce côté-là, plus sa plateforme à lui. Il y a eu plein de titres comme ça, Akon qui a bossé aussi de son côté, mais qui était initialement sur ce projet-là. Donc du coup, tu te retrouvais dans un truc unlock en radio, où les programmateurs radio, même si c'était brandé R&B, c'était chaque attaché radio de chaque maison de disque qui allait pitcher le morceau pour leur artiste, mais ça, l'entonnoir en fait c'était R&B.
Est-ce qu'il y avait des artistes qui voulaient se placer sur R&B Fever pour se faire connaître ou pour se relancer?
À l'époque sur le R&B Fever 1 déjà, il y a quand même un truc où chacun vit bien son truc dans sa carrière. Donc il n'y avait pas vraiment de stratégie par rapport à ça. Il y avait juste des bons morceaux et moi j'étais vraiment dans le partage de me dire de toute façon j'ai envie de faire blow up une marque qui est R&B. Donc plus il y a des gens qui voudront l'utiliser et comprendre l'appareil qu'il leur a mis à dispo pour que le truc fonctionne, plus ça va fonctionner pour R&B. Et après la suite derrière pour ces artistes dans leur carrière respective, si ça les a aidés, tant mieux. Moi, ça ne m'appartenait plus, en fait. Mais l'idée, c'était ça, ouais.
En 2019, désormais, il y a le streaming et les playlists. C'est un peu des petites compilations, au final, donc qui sont répertoriées, ou des morceaux, en tout cas, sont répertoriés en fonction de leur style, de leurs ambiances, de leurs humeurs. Est-ce que, du coup, avec ces playlists qui existent, est-ce que ce genre de projet, comme R&B Fever, ces compiles musicales, pourraient exister là, en 2019?
Bah écoute, pour tout te dire, t'es peut-être le premier média à qui je vais le dire, mais je suis en train de refaire un R&B en fait. Voilà, je suis en train de refaire un R&B, mais bizarrement, alors c'est marrant parce que je trouve que la scène d'aujourd'hui, de par le R&B de l'époque et tout ce que ça a pu enfanter derrière, bah, s'y prête encore plus, s'y prête beaucoup plus. Donc du coup, j'ai décidé d'en refaire un autre. D'abord parce que c'est les 15 ans de R&B cette année. Et de deux, fort de ce qui se passe, moi je suis beaucoup aux États-Unis et pas que sur le hip-hop, sur la scène latino. Et la scène latino, sur certains égards, me rappelle beaucoup. Disons que là-bas ils ont le reggaeton et nous on a le R&B. Et finalement, tu t'aperçois que c'est ces mêmes migrations sud-nord qui ont créé ces mélanges-là en fait. Et quand on voit le succès aujourd'hui des J Balvin, de Bad Bunny, de tous ces artistes-là, on vit la même chose. C'est aujourd'hui, tu prends un mec comme Soul King, tu prends, tu vois, c'est réel, c'est gros. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, pourquoi ne pas en faire un? Et je me suis aperçu que finalement, la scène s'y prêtait parfaitement. Alors après, effectivement, dans le mode de consommation aujourd'hui avec le streaming et tout ce qui se passe, c'est une autre manière, je pense, un autre mode de diffusion, un autre mode de consommation. Mais le process pour moi de production et de création restera le même. Après, il y a quand même un truc qui est différent, c'est que tu vois, en termes de DA sur le projet, c'est pas un projet que je mettrais sur Awa. Tu sais, pour moi, le rap, en fait, et cette musique-là, d'une manière générale, à l'intérieur, il y a une mise en abîme, si tu veux, ou à l'intérieur du hip-hop, tu vois, t'as plusieurs ramifications. Et de toute façon, tu le vois à travers les différentes offres de playlists qu'il y a, tu vois, t'as la playlist... Tu vois, lyriciste, t'as la playlist, tu vois, un peu commerciale, un peu... T'as une playlist un peu banger, t'as une playlist... voilà. Et Awa, nous, on s'est... J'ai voulu, moi, vraiment me positionner sur ce que j'appelle la nouvelle wave. Tu vois, sur des artistes comme Zola, comme Didi Trix, comme Lou Bresval.
Fuckboy, enlève ta casquette quand je te parle. Cette année, je graille tout et personne marchera sur ma paire. Tous mes pillards sont sous pillards, celui qui bombera sa part.
C'est encore une autre mutation du rap aujourd'hui, et le choix que j'ai fait, si tu veux, d'aller encore plus sur des nouveaux, parce que je l'avais déjà fait à l'époque sur Def Jam avec Lacrim, que j'avais signé là-bas, avec SCH, et aujourd'hui pour moi ce n'est qu'une continuité. Le seul truc, je pense encore une fois, c'est que ce qui peut amener un succès, c'est juste l'intégrité que tu te donnes dans la décision et la target que tu vises d'entrée, et du coup le tuyau que tu utilises pour y aller. L'erreur pour moi, ce serait justement de mettre R&B sur Awa. Pour moi, ça ne correspond pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va le faire avec RCR. Et du coup, c'est un autre tuyau, un autre projet, et ça va le faire.
Et il y aura également ceux qui étaient sur les anciennes versions, des Leslie, je ne sais pas.
Je pense qu'il y en aura quelques-uns. Et après, encore une fois, tu sais, on a tendance, si tu veux, à enterrer, tu sais, vite, tu vois, les gens, les carrières. Et moi, il y a un mot qui, dans n'importe quel corps de métier, tu vois, est pessimiste et péjoratif, c'est le mot amnésie. Dans la musique, moi, c'est le seul mot que je trouve positif, paradoxalement, parce que l'amnésie, c'est quoi, en fait? L'amnésie, c'est... T'as pas fait de morceaux ou t'as disparu pendant tant de temps, pour les gens, t'es mort. Et il suffit que tu reviennes, tu vois, avec le morceau qui met tout le monde d'accord et t'es jamais parti. Et du coup, c'est comment tu gères ta schizophrénie au milieu de ce truc, tu vois, et comment tes forces de proposition là-dedans. Et du coup, moi, j'y vois là un grand terrain de jeu et je m'amuse tous les jours. Pendant ma tête, j'ai 12 ans, moi, tu vois, je m'éclate en fait dans ce que je fais.
DJ Koravan, dans les années 2000, les rappeurs rappaient, les chanteurs de R&B chantaient et on mixait les deux. Les chanteurs de Rai chantaient aussi et c'est ce qui a donné à Ryan B. Fever. Maintenant, avec l'autotune, les rappeurs chantent et les chanteurs de R&B n'existent quasiment plus du coup. Est-ce que le R&B existe encore?
Je reviens un peu, je veux te redire presque la même chose, mais tu sais, la musique, c'est voilà, c'est des cycles. Moi, je sens un revival justement au niveau du R&B, parce que ce qui a pu, entre guillemets, je veux pas dire ce qui a pu tuer le R&B, mais parce que c'est une autre forme d'expression, c'est l'autotune. Tu vois, l'autotune, ça a ramené un truc. C'est l'éternel débat, si tu veux, entre des mecs de ma génération qui vont vivre dans le passé, tu vois, et qui vont dire ah ouais, le rap c'était mieux avant ou le truc c'était mieux avant. Non, je pense qu'il faut vivre avec son temps et qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les styles, et que demain, tu vois, un artiste qui va arriver sans autotune, tu vois, avec un album bien produit, tu vois, sur. Tu vois, une espèce de... Je pense qu'aujourd'hui, on est prêt pour un espèce de D'Angelo français, tu vois, paradoxalement, tu sais, en 2020, qui pourrait tout éclater. avant, la France, l'exception culturelle en France fait que, avant qu'on accepte, tu vois, ton truc, d'un espèce de purgatoire, si tu veux, de blow up avec un titre, deux titres, trois titres, un album, deux albums, et après là, les gens viennent en drapeau blanc en mode ok, vas-y, c'est bon, t'as gagné, on te suit dans ton délire. Mais finalement, le R&B, en vérité, la manière de. Je te parle là, tu me parles de Matt Houston, moi je pourrais te parler de. Je pourrais parler de Karine, oui. Je pourrais te parler de, tu vois, de tous ces artistes-là avec qui j'ai travaillé. Et aujourd'hui, est-ce qu'eux-mêmes, à l'époque, ils ont eu des gros succès, tu vois, mais est-ce qu'eux-mêmes ont transformé album 1, album 2, album 3 ? Tu vois ce que je veux dire ? Pour créer une vraie carrière. Et du coup, qu'il y ait un legacy autre que sur un simple single qui nous rappellerait une époque ou un truc. Tu vois ce que je veux dire ? RCA, on signe un projet avec un mec qui s'appelle Joey Doit de Filet, tu vois, qui pour moi est un vrai truc, une vraie proposition aussi. Et je pense qu'on est prêt pour ça.
Tu dis que tu n'as pas besoin d'homme pour avancer. Mais si c'est pas lui, dis-moi qui va te fiancer.
Je pense qu'on est prêt pour arriver sur des beaux albums de R&B, produits comme à l'époque, et du coup moins dans l'immédiateté, tu vois, d'un truc vraiment figé dans le temps. Et je pense qu'on va y arriver. Et tu verras que d'un seul coup, il n'y aura pas de règles et le truc va cartonner et c'est tout. Donc je pense pas qu'il faille plus que ça, tu vois. De par le progrès, on diabolise beaucoup les choses, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je vois pas les choses comme ça, tu vois. Je me dis, à un moment donné, voilà, l'autotune, alors c'est vrai, il y a eu des... il y a eu des trucs pas très bons musicalement, tu vois. Mais en vérité, de l'autre côté, ça a amené une autre forme d'expression, une autre forme d'art. Tu comprends ? La force d'un producteur, pour moi, c'est avant tout sa culture musicale. Et c'est comment, justement, tu vas dans des cycles, quand t'es bien dans ta tête et que tu sais ce que tu fais, tu sais, c'est comment tu vas... puiser, tu vois, dans ta culture et aller chercher les meilleurs trucs et tout. Par exemple, moi, tu vois, si on doit parler de l'autotune ou quoi, moi, j'ai produit beaucoup, t'as vu, sur pas mal de software et tout. Et là, tu vois, depuis peu, je me suis remis à la MPC. À la MPC, donc, c'est un sampler mythique qui avait un défaut, en fait, de fabrication qui a fait de cette machine une star, en fait. C'est qu'en fait, dans le quanti, c'est-à-dire le quanti, c'est au niveau du rythme, en fait, il y avait un défaut dans le temps de latence qui a créé un espèce de swing inégalable. Et inégalé jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, tu vois, là, on revient un petit peu à un son. J'avais besoin de ramener un petit truc un peu vintage, tu vois, dans mes productions. Et du coup, j'ai ressorti ma MPC, tu vois, avec mes kits de batterie de l'époque, où j'avais d'ailleurs des morceaux que j'avais fait avec Karine, tu vois, où je ressortais ces kits de batterie aujourd'hui et ça marche. Parce que qu'est-ce que font la plupart des. Tu le vois même dans le style vestimentaire, tu vois, il y a une espèce de revival, tu vois, des petites dehors qui s'habillent comme Alia, tu vois, mais sans le savoir, en fait. Mais c'est des trucs que nous, on a vécu, tu vois. Donc la musique, c'est un peu comme la mode, tu vois. Tu puises dans des époques et t'essaies d'en ramener le meilleur, tu vois, et de donner toujours une lecture plus lisible au public. Parce que moi, j'aime bien être dans le bel objet, mais j'aime bien que ça marche.
Merci DJ Core d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc une sortie imprévue d'un nouveau R&B Fever 15 ans après. Cet épisode bonus de Business of Music est donc terminé. On se retrouve très rapidement dans un épisode de La Story, un épisode dédié justement à l'avenir des compilations. N'hésitez pas à vous abonner à Business of Music et à La Story des Échos sur toutes vos plateformes de podcasts.